Madame Laplante a débuté l'enregistrement. Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 24 mars 2021. Voici projet d'ordre du jour. Avant de débuter, on va demander à Madame Laplante de prendre des présences, s'il vous plaît.
Bonsoir, donc Madame André Brosseau.
Présent.
Monsieur Jamie Nichols.
Présent.
Monsieur Raymond Larouche.
Présent.
Madame Denise Godin-Dosti.
Présent.
Monsieur Daniel Martel.
Présent.
Monsieur Pierre Séguin.
Présent.
Madame Dany Deschênes.
Présente.
Monsieur Yvan Cardinal.
Présent.
Monsieur Pierre Lalonde.
Présent.
Monsieur François Bélanger.
Présent.
Monsieur Hans Grunewald Jr.
Monsieur Grunewald a des ennuis de son, mais il nous fait des grands signes à la caméra qu'il est présent.
Je suis présent.
Ah, voilà.
Monsieur Daniel Beaupré.
Présent.
Monsieur Denis Ranger.
Monsieur Ranger nous fait signe que oui, il est en muet, mais il nous fait signe qu'il est présent.
Monsieur Robert Grimaudot.
Absent.
Monsieur Grimaudot nous a avisé de son absence, devrait arriver un peu plus tard. Il a avisé son retard.
Monsieur Jean-Yves Poirier.
Présent.
Monsieur Yvon Berriot.
Présent.
Monsieur Yvon Chiasson.
Présent.
Monsieur Michel Bourdeau.
Présent.
Madame Julie Lemieux.
Présente.
Monsieur Guy Pilon.
Présent.
Monsieur Philippe Lapalme.
Présent.
Monsieur Patrick Boussès.
Présent. Donc, merci.
Je n'ai pas été présenté, Patrick.
Moi non plus, François Plot.
Monsieur Plot, présent. Et qui n'a pas été nommé?
Régent Fournier, monsieur le préfet.
Monsieur Fournier.
Monsieur Régent Fournier. OK, c'est beau, je l'avais coché.
D'accord. Donc, conformément aux directives du gouvernement concernant les séances du Conseil ordinaire ou extraordinaire, les séances du CA et du Conseil de la MRC sont tenues sans la présence du public, enregistrées et diffusées sur le site Web de la MRC dès le lendemain de la tenue de la séance en version audio. Si les citoyens ont des questions, ils peuvent les adresser par courriel à Mme Linda Laplante à l'adresse suivante, llaplante@mrcvs.ca. Donc, comme nous avons quorum, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur Daniel Beaupré, Monsieur Jean-Yves Poirier. Je ne sais pas si on a des présences de nos, nos députés ou de leurs représentants. S'ils y sont, on leur souhaite la bienvenue. Donc, on avait proposeur secondaire. On a également souligné la présence de Monsieur Sébastien Legros, agent de développement social. Donc, pour l'adoption, pour l'ouverture de la séance, on a un proposeur secondaire. Pour l'adoption de l'ordre du jour, notez toutefois que vu l'absence de M. Grimaudot, le retard de M. Grimaudot, nous adopterons, nous ajouterons des points avec son accord un peu plus tard. Par contre, on retirerait d'office les points 13.2.5 ainsi que le point 6.2.3. Ça va, hein, M. Beaudoin, c'était ce qui était convenu?
6.2.13, je crois.
Point 13, pardon, oui, et non point 3, 6.2.13. Donc, si ça va pour tout le monde, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire.
Je propose.
Je seconde.
Donc, M. Larouche, et qui secondait?
C'est moi, M. le préfet.
M. Régent Fournier. S'il vous plaît, des fois, nommez-vous, parce que comme je ne peux pas voir tout le monde sur le même écran, c'est pas évident. Donc, au point suivant, là, au suivi des procès-verbaux, des résolutions du Conseil en 3.1, M. Beaudoin.
Oui, tout à fait. Demande au ministère des Transports du Québec afin de rendre la responsabilité de la prise d'eau de la rivière Rouge à Coteau du Lac. Donc, nous avons eu une discussion avec un sous-ministre du NTQ en début mars. Et on est en attente d'une réponse écrite du MTQ à ce sujet. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole pour une utilisation à une fin autre qu'agricole, caserne incendie. Donc, la décision finale est tombée, c'est accepté. Demande de dispense ministérielle pour signer un contrat de gré à gré avec Tricentris. On va demander à M. Grunewald, peut-être dans ce dossier-là, de relancer les gens de Tricentris pour voir où ils en sont dans leur démarche, parce qu'on n'a eu aucun accusé de réception de la part des ministères. Peut-être Tricentris aura de l'information. Rétrocession du lot de 4 millions de la MRC Vaudreuil à la ville de Coteau-du-Lac. Vous vous souvenez, on était supposé établir un éco-centre à Coteau-du-Lac. Donc, on a reçu le chèque de 258 107,82 $. Transmission du projet de schéma de révisé de couverture de risque en sécurité incendie, on en parle ce soir. Demande d'autorisation ministérielle pour plusieurs cours d'eau, on devrait recevoir une réponse d'ici avril, on l'espère. Demande au gouvernement fédéral et provincial de financer et d'accélérer les projets de branchement Internet haute vitesse. Monsieur le préfet, il y a eu développement. Vous aviez une rencontre cette semaine au niveau de la FQM, je crois. Et il va y avoir un programme particulier qui va être annoncé. La lettre pour la reconnaissance des sites géologiques d'exception. On a eu un accusé réception de l'UNQ suivi du cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. On devrait, par rapport au TIAM, recevoir un peu d'informations, mais je crois que M. Malot va en faire un point, ou vous, M. le préfet, ce soir.
Oui, tout à fait.
Et fonds région ruralité, volet 1, demande d'aide financière dans le cadre du plan métropolitain de développement économique. On est toujours en attente de suivi à ce niveau. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Beaudoin? Merci, M. Beaudoin. En 3.2, procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2021, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire.
Le cardinal propose.
Madame
Deschênes, vous appuyez. Merci. En rapport des comités au point 5.1, compte rendu du comité de la fibre optique du 22 février 2021 pour dépôt. Monsieur Périot.
Oui, bonsoir. Écoutez, nos deux premières minutes nous ont pas mal coupés. Donc, ici, les autres ont fait des annonces. Maintenant, il va rester à savoir comment ça va se distribuer, ça va se redistribuer. Nous, on a travaillé avec CESUR pour identifier qu'il y avait au moins 2000 foyers qui n'étaient pas ou très mal desservis au niveau du territoire de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Je sais que dans leur conférence, les premiers ministres ont parlé de Bell, de Vidéotron. Je sais pas si ça va descendre dans des petits sites où je sais qu'on travaille avec CESUR régulièrement. Donc, tout ça reste à voir, mais je pense que c'était des bonnes nouvelles. Les gouvernements sont sensibilisés puis en ont fait une priorité et je pense que la pandémie leur a ouvert les oreilles. C'est à peu près ça, je dépose le rapport du comité.
D'accord. Si je peux rajouter, M. Berriot, cette semaine, il y avait l'Assemblée des MRC à la FQM. On a eu des discussions avec le député responsable du dossier du déploiement Internet pour le gouvernement provincial, c'est-à-dire, voyons, le nom m'échappe, M. Bélanger, je crois. Toujours est-il que ce qu'il nous expliquait, parce qu'à la lecture des cartes qui sont affichées sur le site du gouvernement, on constate aucun changement pour Vaudreuil-Soulanges d'ici 2022 par rapport aux investissements qui ont été faits. D'où notre grande inquiétude. On a tout de suite demandé à M. Bellemare là, de s'enquérir auprès du bureau de la députée Mme Picard, pour voir si elle avait à son bureau de l'information. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de réponse encore à ce jour. Ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau du gouvernement, c'est que il se peut qu'il y ait eu des clashs dans les cartes. Alors on devrait donner la chance au coureur d'attendre d'avoir une réponse officielle. Mais il n'en meurt pas moins que si on se fie uniquement aux cartes, il n'y a pas de changement pour Vaudreuil-Soulanges, même en 2022, alors qu'il y a 2000 foyers non desservis sur le territoire et 2000 et un peu plus. Donc, voilà, peut-être qu'à la prochaine assemblée, si on n'a pas de nouvelles, on devrait peut-être se faire entendre je pourrais envoyer un écrit aux responsables des dossiers pour avoir de l'information également mettre en copie nos députés, nos quatre députés dans le fond de la région.
Puis je pense qu'on avait envoyé une résolution à la MRC et qu'on avait demandé à chaque municipalité d'envoyer eux aussi une résolution type. Donc, s'ils ne sont pas informés, Internet ne se rend pas chez eux.
Voilà. Donc, merci, M. Berriot. Ça va pour la lettre qu'on pourra envoyer, vous êtes tous d'accord? Je vois que tout le monde me hoche la tête, oui, merci. Au point 5.2, compte rendu du comité des bâtiments du 5 mars avec la présidente du comité, Mme Deschênes, bonsoir.
Bonsoir à tous, merci M. le Préfet. Donc, évidemment, le comité des bâtiments, ce qui nous occupe beaucoup, c'est le nouveau centre d'archives là, qui déménagera, on l'espère, prochainement. Donc, nous sommes dans tous les processus là, d'évaluation des coûts avec les experts et évidemment, on a réfléchi à la possibilité de travailler par phase. Tout simplement parce que nous sommes en attente d'une potentielle subvention du FAR et évidemment, on ne peut pas engager de dépenses avant de l'avoir reçue. Après validation avec les experts au niveau des coûts, entre autres, et du contrôle des coûts, des heures d'honoraires professionnels, entre autres, il a été convenu que nous irions en appel d'offres. Un seul appel d'offres, mais pour deux volets. Donc, le volet assumé là, selon la planification déjà du côté de la MRC et le volet potentiellement subventionnable. Et donc, ce soir-là, on va évidemment là, demander l'accord là, du Grand Conseil pour aller de l'avant avec l'appel d'offres. Ensuite, nous avançons vraiment de façon très constructive et productive avec Desjardins. Nous avons convenu là, vraiment de façon informelle au niveau de leur installation dans le fameux conteneur. On est à l'étape de leur fournir les plans pour validation, mais donc ça avance très bien et on devrait être en mesure de signer l'entente prochainement. Donc, pour le reste, vraiment, ce sont des discussions là, qui ont lieu entourant la planification du centre d'archives et vous en avez certainement pris connaissance là, puisque c'est déposé ce soir. Donc, on a besoin évidemment là, d'une résolution en ce qui concerne le fait d'aller en appel d'offres pour les travaux. Donc, voilà, Monsieur le Préfet, merci.
Merci, Madame Deschênes. Monsieur Pilon, vous avez levé la main?
Oui, est-ce qu'on peut poser des questions?
Bien sûr.
Merci. Je regarde au point 3, là. Les travaux de la salle de bain au rez-de-chaussée pour la cuisine, augmentation de la superficie, pourraient être réalisés dans une deuxième phase. Est-ce qu'on sait combien ça peut coûter, madame?
En fait, dans le cas de la cuisine, c'est un dossier un peu séparé. Il y a une organisation qui va déposer ses archives et qui a offert d'assumer les frais afférents à la réalisation de ces travaux-là qui sont évalués entre 50 et 60 000.
Est-ce que donc, c'est la CACBS?
Non.
Non? Okay.
Non. Et donc, ce volet-là est en développement. En ce qui a trait à la salle de bain au rez-de-chaussée, on n'est pas certain de faire les travaux en phase 1 et ou en phase 2. Donc, okay. Quand on va avoir l'évaluation des coûts, on va vous la communiquer avec plaisir.
Parfait. Puis dans l'autre point, juste après, l'accès aux personnes handicapées devrait être fait de travaux ultérieurement. Qui va payer ça et est-ce qu'on a une idée combien ça peut coûter?
En fait, on s'est posé la même question et c'est pour ça qu'on a défini le ultérieurement, parce que actuellement, avec les budgets qui ont été autorisés là, du côté MRC et la subvention disponible, il faut faire des choix. Donc, le monde personne ne fera pas partie de la planification là, initiale. Et si on arrive à avoir une subvention, ce sera bien tant mieux. Mais pour le moment, ce n'est pas budgété.
OK, mais est-ce que ça veut dire que les personnes à mobilité réduite ne pourront pas avoir accès ou le centre d'archives va être au rez-de-chaussée?
En fait, le centre d'archives, en tant que tel, au niveau de la recherche et tout, se situe en effet au rez-de-chaussée. Il y a en effet aussi un petit escalier à monter. Pour le moment, le centre d'archives n'est pas accessible du lieu où il travaille par voie de monte-personne ou par voie de montée pour les chaises roulantes. Alors, la mobilité réduite n'est pas un enjeu là, auquel il faut s'adresser pour le moment parce qu'on n'en a pas les moyens. Mais c'est définitivement quelque chose qu'il faut faire.
OK, mais au musée, il y avait une possibilité d'avoir accès aux personnes handicapées. Là.
Mais le musée dans avait... le fond du centre d'archives, je pense que c'était un défi.
OK, mais je pensais qu'une institution municipale ou je ne sais pas quoi est obligée d'avoir accès. En tout cas, si vous dites qu'on n'est pas obligé de l'avoir, c'est correct.
Oui, mais en fait, ce que Mme Deschamps disait, c'est que de toute façon, on va quand même se mettre en recherche de subventions.
Exactement.
Pour pouvoir adapter. Il existe des subventions là, pour les gens à mobilité réduite, donc on va le séparer, on va le mettre dans un autre volet.
C'est bon. On n'a pas abandonné l'idée, on a plutôt dit ultérieurement.
Loin de là.
OK, mais moi, ce que je veux savoir... Est-ce que c'est une obligation, selon le Code du bâtiment, un édifice municipal, paramunicipal, d'après moi, doit avoir l'accessibilité? Donc, juste le vérifier, là, puis je n'ai pas de misère avec ça. C'est beau. La troisième question, mais c'est trois affaires qui suivent. Là. En présence du président du CA, du CACVS, on visitait les lieux. Est-ce que le CACVS est intéressé à louer là?
Non, il n'est pas question nécessairement de louer là, mais potentiellement d'avoir, si peut-être un bureau temporaire, là, ne serait-ce que pour y avoir des œuvres.
Parfait. Mon dernier point, ben ça touche, vous allez vous en douter, là, le fameux guichet automatique de la Caisse populaire. J'espère que la municipalité va changer sa réglementation.
La municipalité travaille actuellement à changer sa réglementation. Ce n'est pas permis un conteneur actuellement dans la ville de Saint-Polycarpe. Alors, ils sont à regarder cet élément-là, évidemment.
Parfait, merci.
Plaisir. Merci, M. le préfet.
Merci, Mme Deschamps. Donc, si vous permettez, j'ai sauté malencontreusement le point 4 qui était présentation des organismes et individus, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Legros est avec nous ce soir. Donc, on avait les points 4.1.1, au fonds d'aide et de relance COVID-19, confirmation des subventions octroyées à partir du fonds des régions et ruralités, volet 2. M. Legros, s'il vous plaît, désolé.
Pas de souci. Donc, en mars de l'année dernière, donc le conseil de la MRC a créé un fonds d'aide COVID. Donc, notamment pour les besoins qui allaient venir des organismes communautaires, des entreprises. Donc, à ce moment-là, on avait identifié un montant qu'on allait pouvoir prendre du Fonds de développement des territoires. Donc, malheureusement, on avait dépassé la date de l'attribution. On était sur la fin du Fonds de développement des territoires et les débuts du Fonds de région et ruralité. Donc, la résolution concerne l'attribution, dans le fond, confirmer que les 202 000 $ donc d'attribution à des organismes communautaires, on va pouvoir les prendre dans le nouveau fonds FIR volet 2 pour 2020. Voilà, et j'en profite pour dire que nos organismes communautaires ont vraiment apprécié que l'aide de la MRC arrive très tôt en début de pandémie. Donc ça leur a permis de pas commencer selon Blitz qu'on a vécu avec un genou à terre et de pouvoir répondre à des besoins rapidement, y compris dans l'hébergement des femmes qui sont victimes de violence.
Donc, M. Legros, si je comprends bien, on avait besoin d'un proposeur secondaire?
C'est bien ça.
Donc, Mme Denise Godin-Dosti.
Vous secondez Hans Grunwald.
M. Grunwald, merci. Au point 4.1.2, programme d'aide au développement du transport collectif, donc le PATDC 2021 pour autorisation. M. Legros, à vous la parole.
Oui, donc depuis 2019, la MRC fait une demande de financement au MTQ pour le financement du taxibus qui dessert les municipalités de Les Coteaux, Saint-Zotique et Coteaux du Lac. Donc, cette demande est la nouvelle demande pour 2021, donc où on espère, avec les déplacements générés, pouvoir aller chercher 96 000 $ au niveau du MTQ pour financer le taxibus, donc pour adoption.
Après la proposition, monsieur.
Donc, M. Chiasson le propose. Quelqu'un, une seconde?
Une seconde, André Brosseau.
Non, j'entendais M. Fournier ainsi qu'un bruit de grincement de peinture. Bon, donc, M. Chiasson, M. Fournier.
Déjà dit, c'est Mme Brosseau.
Je ne sais pas d'où venait ce bruit, là, mais ça ressemblait...
Il berce trop fort, Yvon, là. C'est pour ça, c'est la chaise berçante.
Alors, au point 4.1.3, programme d'aide au développement du transport collectif, toujours le PATDC 2020, reddition de compte. Monsieur Legros, encore à vous.
Voilà, donc vous avez compris, c'est le même sujet, mais c'est le dépôt de la reddition de compte pour 2020. Donc, selon les chiffres estimés, il y a quand même 5587 personnes qui ont utilisé le service en 2020. Donc, ce que j'ai estimé qu'on pourrait aller chercher 86 000 $ donc dans ce fonds-là pour 2020. Donc, c'est pour autoriser le dépôt de la reddition de compte.
Parfait. Alors, on aurait besoin d'un proposeur secondaire. Madame Deschênes, lève la main. Monsieur Pierre Lalonde. Merci à vous deux. Au 4.1.4, Fonds Région Ruralité, volet 2, rapport annuel d'activité 2020. Monsieur Legros.
Oui, donc je mentionnais qu'on était sur le début du Fonds Région et Ruralité, volet 2. Donc, on doit faire rapport pour les 6 derniers mois de 2020. Donc, 1 388 178 $ étaient disponibles pour cette entente. Et le rapport que vous avez, donc, fait état des dépenses prévues, donc essentiellement une contribution à DEV, un 100 000 $ pour le Fonds de développement des communautés, donc qui a été remis en appel de projet, et les projets structurants du Conseil, donc qui ont été composés de la contribution aux équipements régionaux et du Fonds d'urgence COVID, le 202 000 $ que je vous ai parlé précédemment. Voilà.
Donc, on avait également besoin d'un proposeur secondaire.
Je le propose.
Madame Brosseau?
Second.
J'ai pas compris qui secondaire. Monsieur Larouche, merci.
Oui.
Donc, au point, on va revenir à nos points, donc au 5.3. Merci, Monsieur Legros.
Plaisir. Monsieur
le préfet, Monsieur Grimaudeau a rejoint l'Assemblée. Nous pourrions ajouter les points à l'ordre du jour avec votre permission.
Monsieur Grimaudeau est arrivé. Monsieur Grimaudeau, maintenant, nous aimerions ajouter, avec votre permission, les points 6.2.11.1, report de la tenue des ventes d'immeubles pour non-paiement de taxes. Le point 6.2.11.2, avis de motion du règlement sur la tarification et les modalités de vente. Et également le point 6.2.15, signature de l'avenant entente alliance pour la solidarité de la Montérégie 2018-2023. Donc, Monsieur Grimaudeau, est-ce que cela vous convient?
Oui, je suis d'accord avec les ajouts à l'ordre du jour.
Donc, la décision était unanime avant votre arrivée. Parfait, on pourra donc rajouter ces points. Monsieur Baudouin, merci. Donc, on revient, nous étions au point 5.3, compte rendu de la table de l'eau du 11 mars 2021 avec le président de la dite table, Monsieur Berriot, s'il vous plaît.
Merci, M. le préfet. Bonsoir. Comme on le sait, la MRC va élaborer un plan régional de conservation des milieux humides et hydriques, il y a l'abréviation ici, d'ici 2022. Pour l'étape 3 du diagnostic des milieux humides et hydriques, les membres de la table là ont identifié à l'échelle régionale les principaux enjeux de nos milieux hydriques. La table a identifié ces enjeux. Un, les inondations. 2, l'eau souterraine. 3, la biodiversité. 4, les paysages. 5, les corridors. 7 et 6, la connectivité. Et 7, la sécurité liée à l'écoulement des eaux. Nos recommandations seront transmises à la table régionale d'aménagement et en espérant qu'on une consultation à l'étape 4. Pour le projet de caractérisation des pesticides, le projet, en janvier 2020, la ville de Vaudreuil-Dorion avait demandé à la table de l'eau, avait eu une discussion pour débuter un projet de caractérisation de la présence des pesticides dans les cours d'eau. Le projet avait été mis en attente à cause de la COVID, mais il n'était pas tombé à l'eau. La table de l'eau veut évaluer la possibilité de débuter ce projet. Cependant, l'équipe des cours d'eau a un grand nombre de projets en cours, 135, et il est proposé que le comité des ressources humaines étudie l'ajout de ressources considérant l'ampleur du projet qui impliquerait plusieurs MRC de la Montérégie. Les élus de la table de l'eau demandent qu'une proposition d'étude en partenariat avec les des universités comprenant des coûts du projet et la durée soit déposée lors d'une prochaine table de l'eau pour l'analyse et pour le positionnement. balisage. En 2019, la MRC avait mandaté qu'on va faire pour les petits balisages des rives avec des pierres suite aux travaux d'entretien sur les cours d'eau. À cause de la COVID, le piquetage a été complété en décembre 2020. Dans un rapport soumis à la MRC par le corps, les bandes riveraines ne sont pas respectées un an après les travaux effectués par la MRC. Les élus de la table de l'eau demandent la planification d'une table de l'eau pour discuter uniquement de l'application des rives. Un projet d'application des rives en milieu agricole à l'échelle de la MRC sera ensuite déposé au conseil pour un positionnement. Enfin, au point 4, le comité demande de mandater la firme Jennifer pour la phase 2, question du ministère de l'Environnement pour les devis, et la phase 3 pour faire la surveillance des dossiers du tributaire des cours d'eau de paiement. Et aussi, a été discuté. Une résolution est déposée pour l'adoption au conseil. Je pense que vous l'avez plus tard dans le déroulement de la Chambre. Voici mon rapport. Et voici le rapport de la table. Merci.
Merci, M. Berriot. En 5.4, compte rendu du comité de sécurité publique du 15 mars 2021 avec la présidente du comité, Mme Deschaines, à vous la parole.
Merci. Alors, premièrement, il y a une information importante là, qui a été diffusée. Notre capitaine Marc Robert est de retour, donc on est très heureux qu'il reprenne les commandes de notre région. Par contre, la nouvelle un peu moins le fun, plus triste, c'est que Patrick Bertrand, qui était notre lieutenant, deviendra directeur du centre de services de Salaberry de Valleyfield. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances, mais on l'apprécie beaucoup du côté de Vaudreuil. Alors, voilà pour les changements. Et évidemment, le sergent Bruce Labrie, poursuit là, son travail en tant que directeur du poste Est, et Éric Daou demeure responsable des opérations au poste Ouest en intérim. Donc, voilà. Ensuite, évidemment, on a reçu le rapport périodique qui est aussi diffusé là, à l'ensemble des maires sur une base régulière. Donc, évidemment, ce rapport-là traite uniquement de décembre et janvier. Une question qui a été posée, là, qui est d'intérêt, était à savoir s'il y avait eu beaucoup d'émissions de contraventions en lien avec le respect du couvre-feu. Et la réponse a été qu'effectivement, depuis le redout, là, la belle température, il y a une augmentation quand même assez importante du nombre de contraventions. Donc, ils invitent évidemment la population à respecter le couvre-feu. Parce qu'il y a un coût associé à ça, évidemment. On a discuté aussi là, des enjeux à la Cour, entre autres à la recherche d'un expert au niveau des silencieux. Donc, il y a un processus qui se met en branle. On a parlé aussi d'un sujet assez important, donc les RMH, les règlements municipaux harmonisés, qui concernent le stationnement de nuit. Il y a quand même un aspect là, qui va être validé auprès des 4 municipalités qui ont un RMH identiques, évidemment, au niveau régional, mais qui ont aussi certains aspects, comme par exemple le stationnement de nuit l'hiver permis. Il semble y avoir une problématique là, au niveau de la gestion des différences. Donc, la SQ va communiquer avec les villes concernées. Et en dernier point, il y a eu une proposition de la part de la SQ pour la bonification du programme de cadets de la Sûreté du Québec. Donc, la MRC, nous, on va de l'avant avec la majorité des villes, avec un projet pilote. Donc, il proposait d'ajouter potentiellement des cadets. Et ça, c'est une offre qui peut être faite d'un point de vue régional et ou municipal. Donc, une municipalité peut aussi en faire la demande. Maintenant, il y a des règles au niveau des heures, des taux horaires et tout. Et le comité recommande de maintenir le programme tel que présenté au départ, ne serait-ce que parce que c'est un projet pilote cette année. Et donc, pour l'évaluer, le qualifier, en fin de période, ce serait bien de partir sur cette base qui a déjà été convenue lors de la période budgétaire et par résolution. Donc, voilà pour le résumé.
Question pour Mme Deschaines. Vous avez été très claire. Merci, Mme Deschaines. Donc, au point suivant, à 5.5, compte rendu du comité de la Cour municipale régionale du 16 mars 2021, avec le président du comité, M. Daniel Beaupré.
Bien, bonsoir tout le monde. Juste pour commencer, on a eu un aperçu des résultats de la fin d'année qui nous a été donné. Quand même, on peut voir que les chiffres sont seulement préliminaires. On constate de manière prévisible une baisse des revenus comparativement à l'année 2019, c'est notamment en lien avec la pandémie et le confinement. Il va de même pour les statistiques d'émission de constats. Aussi, on a discuté de, comme l'an dernier, on a fait des recommandations. On avait recommandé aux membres des revenus des BIA, bureaux d'infraction et des amendes, soient redistribués aux municipalités. Cette année, il va y avoir été proposé d'affecter 100 000 $ au fonds des politiques afin de permettre à la MRC de chercher jusqu'à 4 fois cette somme en subvention. Le reste des revenus pourra être redistribué aux municipalités. Et ce point va être discuté, va faire l'objet justement de la résolution plus tard pendant la séance, soit l'item 10.1. Et on a discuté aussi, on a été informé qu'il va y avoir 153 séances de la Cour sont prévues pour le calendrier 2021. Et ensuite, on a discuté, comme Mme Deschênes l'a discuté tantôt, du RMH 330, le stationnement a été révisé. Il doit être rentré en vigueur le 1er mai prochain. Le processus est enclenché dans toutes les municipalités. La version finale du règlement sera déposée plus tard pendant la séance. Un suivi du comité pour les RMH sera fait par rapport au RMH 220, colporteur, le RMH 299, vente temporaire et débarras, afin de valider si l'on garde les RMH ou si on les abolit, puisque plusieurs municipalités semblaient avoir adopté leur propre règlement. L'autre point qui a été discuté, qui a été mentionné, c'est que Mme Laplante et M. Baudouin vont prendre en charge le secrétariat du comité pendant le congé de maternité de Mme Cassab. Et le dernier point, c'est au niveau des opérations de la Cour. Il a été mentionné que la pandémie et le changement de personnel occasionnaient une pression sur le maintien des opérations de la Cour. Il a été statué que du temps supplémentaire serait accordé à l'équipe pour le mois de mars jusqu'au retour de Mme Sabrina Tremblay de son congé de maternité, qui va être en avril, je crois. Et ça complète le rapport.
Merci, M. Beaupré. Il y a des questions? Il ne semble pas y en avoir, mais encore merci. Au point 5.6, compte rendu de la table régionale d'aménagement du 16 mars 2021, avec son président, M. Poirier.
Oui, bonsoir, merci. Donc, la rencontre du 16 mars, il y avait des points à l'ordre du jour, comme la caserne d'incendie au point 2 à Notre-Dame-de-l'Île-Perrault. Donc, Mme McKenzie nous a informé que la CPTAQ avait déposé son orientation préliminaire. Quant à la demande de la MRC de permettre la construction d'une caserne d'incendie à Notre-Dame-du-Pérou. Et aussi, la CPTAQ était favorable à la demande. Celle-ci est traitée comme une demande d'autorisation à des fins autres qu'agricoles plutôt qu'une demande d'exclusion. Et ça, on a joué là-dedans un peu, mais on est dans une demande d'autorisation. Maintenant, au point 3, le plan régional des milieux humides et hydriques. Mme McKenzie nous a présenté l'état d'avancement d'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques. Il nous a fait un bref rappel de 3 principes du plan régional et de l'échéancier de la réalisation. Il y a des recommandations du comité de travail technique qui ont été formulées à l'égard de l'identification des données à l'étape 1. Plusieurs données, là, dont je ferai grâce. Et les activités devront être réalisées pour l'étape 3 pour effectuer le diagnostic des milieux humides et hydriques par une unité géographique d'analyse. Et il y aura des actions qui devront être faites dans ce sens. Il y a des consultations aussi qui seront tenues avec les collaborateurs essentiels et concernés. Nous avons soulevé les questions suivantes. Est-ce qu'une mise à jour des milieux humides et hydriques altéré et détruit sera faite d'ici l'adoption du plan régional en juin 2022. Puis on a demandé aussi de quelle façon l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement continuera à s'appliquer pour les milieux humides et hydriques. La table confirme aussi son adhésion à la démarche d'élaboration du plan régional. Au point 4, on parlait d'une prochaine réunion, une réunion qui serait conjointe avec le comité consultatif agricole. Cette rencontre va permettre de faire le bilan des commentaires, des questions qui ont été reçues par la MRC de la part des municipalités, des ministères, de la CMM sur le projet de réglementaire, sur le projet de règlement du schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième génération qui leur a été déposé le 9 février dernier. Voilà, c'est le compte-rendu de la table.
Merci, M. Poirier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
Monsieur le Préfet, est-ce que vous me donnez la parole quelques secondes?
Bien sûr, Mme Deschamps.
Merci. Je vais simplement profiter de l'occasion pour informer Monsieur Poirier et mes collègues que nous avons reçu hier la confirmation écrite de la CPTAQ qui nous permettra de construire la dite caserne comme souhaité. Alors, on est très, très, très heureux d'avoir enfin la confirmation et non seulement une intention.
Et voilà. Nous le sommes aussi.
N'est-ce pas?
Ouais.
Merci.
Parfait. Merci, Mme Deschênes. Donc, au point suivant, avec M. Pierre Lalonde au 5.7, compte rendu de la table des technologies de l'information du 19 janvier, 4 février et 12 mars. On constate, M. Lalonde, vous la parole.
Bonsoir. Ben donc, c'est ça, depuis la création de la table, on s'est rencontrés à trois reprises. On a donc pris connaissance de l'environnement informatique de la MRC. Et par la suite, depuis le 1er mars, la gestion de l'environnement informatique a été transférée au nouveau contractant qui est LinkPlanet et son partenaire LB3. La passation de la gestion s'est effectuée sans impacter les utilisateurs. On a eu une très bonne collaboration entre les anciens contractants qui étaient CGI et le nouveau contractant qui est LinkPlanet. Donc, à ce niveau-là, tout s'est très bien passé. Et aussi, nous nous sommes penchés là, sur la création du nouveau poste de technicien informatique et les rôles qui seront confiés à cette personne. Donc, grosso modo, là, ça fait le résumé de ce qui s'est passé depuis le début de la création de la table.
Merci, M. Lalonde. Est-ce qu'il y a des questions?
J'ai une question, oui, M. Bousset. J'avais l'impression qu'on n'engageait pas de technicien vu qu'on prenait le contrat tout inclus avec la compagnie. Est-ce que je me trompe?
M. Lalonde, si vous voulez répondre.
On avait, lors de la discussion précédente, fait mention qu'on souhaitait faire une intégration un petit peu plus autonome là, au niveau de la MRC à ce sujet-là. Donc, il y avait un poste de, si je me souviens
bien. En fait, c'est le poste qu'on a modifié.
Si, exactement, qui était un génie plus, et maintenant, ça va être plus technicien informatique, avec une part de génie. Ça, on fait juste comment inverser un petit peu là, les priorités dans ce poste-là.
Si.
Voilà. Donc, merci, M. Lalonde. Alors, au point, en administration générale, au point 6.1.1, la liste des paiements en fonction du règlement décrétant les règles de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Monsieur Beaudoin.
Voilà. Nous n'avons pas reçu de questions particulières. Comme vous voyez, il y a beaucoup de remises des cours municipales en termes d'incompressibles. Et pour le reste, il y a, comme vous voyez, il y a l'ensemble des dépenses qui avaient été approuvées. Puis également, il y a eu le versement des trop perçus de la Sûreté du Québec en fonction de la nouvelle formule pour un grand total de 10 658 130,44 $.
Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous aurions besoin d'un proposeur secondaire.
Pierre Séguin.
Pierre Séguin et Michel Bourdeau. Merci à vous deux. En 6.2.2, résolution de la municipalité de Saint-Zotique, avis d'opposition à la MRC de Vaudreuil-Soulanges concernant le mode de distribution des trop perçus 2020 de la Sûreté du Québec. On en ferait donc un dépôt. Au point 6.2.3, Ville de Vaudreuil-Dorion contre municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges. Demande introductive d'instance en pourvoi en contrôle judiciaire. Monsieur Baudouin, s'il vous plaît.
Et donc, nous avons bien entendu comparu, nous nous sommes entendus, à vrai dire, ça m'exclut, les avocats se sont entendus sur des comparutions, donc nous allons interroger des témoins de la MRC en avril, la ville va pouvoir interroger ses témoins en mai jusqu'en juin, et par la suite, il va y avoir le dépôt du mémoire de la demanderesse, le dépôt du mémoire de la défendresse. On va être en cours vers le 10 septembre pour connaître des dates de cours à être fixées. Donc, nous en sommes là-dedans. Notre avocat est maître du côté de la MRC est maître Daniel Chénard. Et bien entendu, vous allez voir une série de frais qui vont suivre. Par exemple, on va avoir besoin de sténographes, etc. Mais ça s'en vient. Fait que voilà.
Merci, M. Baudouin. Avec votre permission, on reviendrait, j'ai sauté, je m'en excuse, le point 6.2.1, c'est-à-dire procès verbal de correction. Le règlement numéro 246, modalité de l'établissement des quatre-parts 2021 des dépenses de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de leur paiement par les municipalités. Donc, M. Baudouin.
Donc, c'est ça, après vérification des documents comptables et en l'absence de Mme Cassab, qui est en congé de maternité, on la salue si jamais elle nous écoute, on a constaté qu'il y avait des petites omissions dans le règlement numéro 246. Donc, pour Ange des Parcs, il faut ajouter la ville de Les Cèdres. Elle avait été facturée, mais elle n'avait pas été mise dans le 2.19. 2.22, c'est la rature de l'île Cadieu, puisque l'île Cadieu s'était retirée. Et Cadet de la Sûreté du Québec, ajout de Les Cèdres et Sainte-Justine de Newton. Donc, de par les pouvoirs qui me sont confiés, je vous produis ce procès-verbal de correction. Il faudrait un proposeur secondaire pour qu'on modifie en ce sens.
Monsieur Poirier et Monsieur Daniel Beaupré. Merci. Donc, revenons maintenant, on va suivre le cours normal en 6.2.4, adoption du règlement municipal harmonisé 330-2021, stationnement, on en fera un dépôt, M. Baudouin?
Oui, tout à fait. Donc, je vais aller chercher mon document, voilà. Le RMH 330, Monsieur le Préfet, est le seul que nous avons eu le temps de réviser cette année. Ce qui va être demandé à chacune des villes et municipalités, c'est d'entamer le processus d'adoption, soit par un avis de motion et le dépôt du projet à leur séance du mois de mars et l'adoption du RMH à la séance du mois d'avril pour une entrée en vigueur partout sur le territoire le 1er mai 2021. Il va rester par la suite à mettre à jour deux de nos RMH, le RMH 220, colporteur et commerçant itinérant, et 299, vente débarras et vente temporaire. Et je tiens à rappeler que nous avons présentement 6 règlements RMH, alarme, colporteur et commerce itinérant, vente débarras, vente temporaire, circulation, nuisance, sécurité, paix et bon ordre. Donc, il va y avoir une communication qui va être envoyée dans chacune des municipalités.
Merci, M. Baudouin. En 6.2.5, résolution de la municipalité de Les Coteaux, avis à la municipalité de Saint-Zotique concernant le projet d'annexion du lot 1,689,252 du cadastre du Québec situé au 286 Cercle-Périer et l'acquisition extraterritoriale de cet immeuble. On en fait un dépôt, Mme Godin-Dosti. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, la municipalité de Saint-Zotique a communiqué son intention d'entamer une procédure d'annexion sur le territoire des Coteaux. Fait que la présente résolution mentionne que la municipalité des Coteaux s'y oppose.
Merci, Mme Godin-Dosti. En 6.2.6, projet de loi 85, la Fédération québécoise des municipalités présente son mémoire en commission parlementaire, M. Baudouin.
Oui. Donc, ça a été un projet de loi extrêmement court, 5 articles, mais extrêmement important. Puisque ça concerne l'encadrement des pouvoirs du directeur général des élections du Québec. La direction générale des élections du Québec aura un pouvoir extraordinaire d'imposer des choses sans avoir à passer par le Parlement et par la suite vous donner des ordres de mise en place de processus ou de procédures électorales. Le projet de loi ne comporte aucune date limite jusqu'à laquelle le DGEQ pourra réglementer une modification à une disposition de la loi sur les élections, ce qui a pour conséquence d'insécuriser les municipalités qui pourraient se voir imposer à la dernière minute de nouvelles règles pour gouverner des élections. Ainsi, les MRC et les municipalités doivent connaître rapidement les balises légales qui les gouverneront jusqu'aux élections du 7 novembre 2021. Par ailleurs, le directeur général des élections n'aurait qu'à publier un avis de 10 jours pour commentaire dans la Gazette officielle pour proposer ces modifications, ce qui nous semble un petit peu particulier parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller lire la Gazette officielle, bien entendu, pour savoir si c'est une modification au processus électoral. Il y a également beaucoup de commentaires sur les réalités régionales, donc prendre les coûts en considération. Les MRC et les municipalités représentées par la FQM ne disposent pas de budget suffisant pour savoir imposer le vote par correspondance, qui peut atteindre des coûts importants si jamais il était imposé en période de pandémie. Donc, c'est sûr que la FQM s'attend. Il ne s'entend pas avec le gouvernement, mais s'attend à ce qu'il y ait une meilleure communication à ce niveau-là et que vous sachiez dans quelles règles vous allez devoir appliquer et quels coûts vous allez devoir assumer. Internet, d'autre part, bien qu'hypothétique, mais probable dans les circonstances de la pandémie, le DGEQ doit garder à l'esprit la problématique bien connue de l'accès à Internet au débit dans certaines régions s'il devait songer à réglementer en imposant aux municipalités des solutions impliquant l'utilisation d'un moyen technologique porté par Internet. À l'instar de ce point-là, parce que les régions font face à des obstacles uniques, les mesures que pourrait prendre la DGEQ pourraient se moduler par région et non être du mur à mur. Donc, c'est un très beau mémoire déposé par la FQM.
Merci, M. Baudouin. Donc, en 6.2.7, résolution de la MRC d'Argenteuil, donc c'est concernant la prolongation de l'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relative à la cartographie des zones inondables. C'est donc un appui à notre demande et on en ferait le dépôt. En 6.2.8, lettre de remerciement de Galiléo, partenariat territorial Montérégie-Ouest. Donc, Monsieur Poirier. Vous êtes en muet.
Oui, pas grand-chose à rajouter là-dessus. Là. J'ai même pas eu le temps de regarder ce dossier. Ça fait que, je m'excuse. Mais je sais que c'est une belle collaboration avec le CACVS, entre autres, qui fait joindre finalement des subventions avec le Conseil des arts et lettres du Québec.
Parfait. Donc, on en ferait le dépôt. Merci, M. Poirier. En 6.2.9, résolution d'appui de la MRC des Jardins de Napierville. Donc, c'est concernant notre demande de reconnaissance de 2 sites géologiques exceptionnels par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Forcément, ce dossier-là, on a commencé à en discuter avec les autres MRC un peu partout au Québec, mais notamment auprès de la Montérégie. Donc, c'est bien, c'est un bel appui d'une MRC de la Montérégie. Donc, on offre un dépôt. En 6.2.10, demande d'élaboration d'un plan d'action pour le maintien de la pour le maintien de la conformité à la Charte de la langue française, Monsieur Baudouin.
On en prend une. Oui, nous avons reçu la visite des gens de l'Office québécoise de la langue française qui ont vérifié si on respectait la loi, dont nos sites Internet, la façon dont on fait nos publications, les communications avec nos employés, les communications pendant nos assemblées délibérantes. Donc, ils ont convenu qu'on était correct au niveau de l'article 2, 3, 4 et 5, tant au niveau des assemblées délibérantes, du droit des travailleurs à s'exprimer en français, des consommateurs de nos biens et services, et toute personne a le droit de communiquer avec l'administration en français. Ils ont découvert cependant qu'il y a un logiciel qui leur causait un peu problème, c'est-à-dire le logiciel de la Cour qui nous permet de faire des enregistrements. Ça s'appelle For the Record, mais l'interface est en anglais. Donc, Record, Stop, Forward, etc. Donc, on va nous demander véritablement, lorsqu'on va le remplacer en 2024, de s'assurer qu'il y ait une version française de l'interface Et à ce moment-là, il va falloir donner un cours à nos employés, configurer les logiciels, utiliser la version française, installer les serveurs en version française. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour. C'était le seul point. Et bien entendu, on s'engage toujours là, à faire des vérifications ponctuelles des versions logistiques des logiciels utilisés par le personnel. Et ça a été signé par Julie Cassab et envoyé directement à l'Office de la langue française. Donc, ça devrait clore ce dossier.
Merci, M. Beaudoin.
Oui, c'était très important en pandémie de venir nous consulter à la MRC.
Merci, M. Beaudoin. En 6.2.11, nouvelle directive pour la tenue des ventes d'immeubles pour non-paiement de taxes. Un point d'information, M. Beaudoin.
Oui, un point d'information suivi de deux autres points, M. Préfet, de positionnement. Donc, le point d'information, on a reçu des directives pour la vente pour non-paiement de taxes. Puisque nous sommes en zone rouge, je ne peux pas tenir la vente pour non-paiement de taxes en présentiel. Donc, le gouvernement a dit très bien, mettez en place une plateforme. On a posé une vingtaine de questions, bien entendu, au gouvernement, parce que c'est une vente légale, c'est une vente judiciaire, c'est une vente qui d'habitude se fait devant le public, c'est une vente où on accepte l'argent comptant, les traites bancaires visées. Donc, quand t'es pas en présentiel, terminer une première transaction de vente pour non-paiement de taxes. Donc, la FQM est en train de travailler sur un modèle de plateforme qu'on pourrait mettre en place. En attendant, puisque nous devions faire le 8 avril la vente au non-paiement de taxes, on la reporterait au 14 juin. Et à ce moment-là, ça nous laisserait tout le temps pour mettre en vente une vente pour non-paiement de taxes sans présentiel. Cependant, pour faire ça, bien, il faut procéder aux deux prochains points, dont le point, Monsieur le Préfet, parce que je ne l'ai pas devant moi. Sur
donc, le 6.2.11.1. Oui. Reprendre la tenue des ventes d'immeubles pour non-paiement de taxes.
Donc, on aurait besoin d'une résolution pour reporter au 14 juin.
Voilà, et il nous faudrait un proposeur secondaire. Monsieur Bourdeau, Monsieur Lalonde.
Merci. À titre exceptionnel, au prochain point, Monsieur le Préfet, on aurait besoin d'un avis de motion pour modifier notre règlement sur les coûts et les modalités des ventes pour non-paiement de taxes pour tenir compte de cette nouvelle procédure. Donc, on adopterait l'avis de motion sans dépôt de règlement. Le dépôt de règlement serait fait au conseil d'avril pour adoption, au conseil de mai pour application pour la vente de juin.
Voilà. Alors, il nous faudrait quelqu'un qui donne l'avis de motion.
Je.
Monsieur Yvon Berriot en fait avis de motion. Merci, Monsieur Berriot. En 6.2.12, reddition de compte pour l'aide financière liée à la légalisation du cannabis, pour information, avec M. Bellemare, s'il vous plaît.
Oui, alors en 2019, le MAMACH a versé une aide financière de 190 000 à la MRC et pour redistribution à 20 municipalités de moins de 15 000 habitants. Les municipalités, en fait, vont avoir une prolongation jusqu'au 30 juin 2021 pour transmettre à la MRC leur reddition de compte à cet effet-là. C'est 3 mois supplémentaires là, pour tout ce qui est sensibilisation au niveau de la légalisation du cannabis.
Merci. En 6, c'était donc un point d'information. 6.2.13 ayant été retiré, on va passer tout droit, on irait au 6.2.14. Entente de confidentialité, M. Beaudoin.
Oui, on aurait besoin, M. le Préfet, d'un proposeur et secondeur pour que nous signions une entente de confidentialité avec le CP pour un projet dans Vaudreuil-Soulanges.
Donc, M. Larouche et M. Guy Pilon. Merci, messieurs. Donc, au point suivant, 6.2.15, signature de l'avenant Entente Alliance pour la solidarité de la Montérégie 2018 à 2023. Donc, pour autorisation avec M. Bellemare, s'il vous plaît.
Oui, donc, il s'agit, dans le fond, d'un ajout aux sommes actuelles. Il va nous falloir signer une entente. Le montant supplémentaire est de 266 000 $ pour l'entente de 5 ans. Et c'est pour l'ensemble de la Montérégie, donc qu'on propose d'en faire l'adoption pour signature à cet avenant.
On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Monsieur Hans Groenwald.
Merci.
Et est-ce que j'ai une autre main levée? Monsieur Pierre Lalonde. Merci. Au point suivant, en bâtiment, au point 6.3.1, mandat pour l'élaboration des plans et devis et l'élaboration d'appels d'offres pour les travaux prévus pour le bâtiment du 12 Saint-Jean-Baptiste à Saint-Polycarpe, avec le président du comité bâtiment, Mme Deschênes. On ne vous entend pas, Mme Deschênes. Monsieur Baudouin, pourriez-vous prendre le relais, s'il vous plaît, si vous avez l'information?
Oui, un instant. Donc, mandat pour l'élaboration des plans et devis et l'élaboration d'appels d'offres des travaux prévus. Donc, c'est le document 6.31A que merci. Linda pourrait partager.
Ah, Madame Deschênes, voilà, vous de retour? Madame Deschênes, et on l'entend maintenant. Alors, à vous la parole.
Je mes excuses. Bienvenue dans le milieu technologique. Alors, Monsieur le Préfet, si je suis l'ordre du jour que je voyais à l'écran, nous parlons maintenant de Saint-Polycarpe de l'appel d'offres, c'est ça?
Oui, en 6.3.1, tout à fait, l'élaboration des plans et devis.
Merci. Alors, nous aimerions effectivement aller en appel d'offres, un appel d'offres qui aura deux volets. Un premier volet qui sera évidemment financé là, par la MRC puisque déjà budgété. C'est dans le cadre des travaux d'amélioration des infrastructures de l'édifice qu'on a acheté régionalement récemment pour le futur, comme étant le futur lieu du centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. Et donc, le premier volet est déjà prévu. Le second volet a été déterminé tout simplement parce que nous sommes en attente d'une subvention et évidemment, nous ne pouvons décaisser avant d'avoir la dite subvention. Donc, c'est simplement la raison pour laquelle il y a deux volets, mais les travaux d'amélioration impliquent, entre autres, la mise à niveau de l'édifice afin d'accueillir des archives dans les règles de l'art. Voilà.
Madame Deschênes, on aurait donc besoin d'un proposeur secondaire.
Régent Fournier.
Madame Julie Lemieux et Monsieur Régent Fournier. Merci.
Merci.
Au point communication, en 7.1, restez avec nous, Mme Deschênes. Donc, 7.1, campagne de promotion et de sensibilisation récurrente entourant les matières résiduelles et le réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges. Donc, à vous la parole.
Oui, merci. Alors, c'est un montant qui était évidemment budgété. Ça implique, entre autres, la poursuite au niveau des capsules vidéo qui ont franchement un grand succès, autant dans la région que dans les différentes plateformes de nos municipalités. Et c'est aussi, dans le cadre des différentes actions environnementales, la mise sur place là, de stratégies de communication vers les médias papier, web et les différents médias sociaux. Donc, c'était évidemment déjà au budget et prévu par le Grand Conseil.
Il y a des questions pour Mme Deschênes? Il ne semble pas y en avoir. On aurait donc besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur François Pilot. Quelqu'un appuie? Monsieur Michel Bourdeau. Merci. En sécurité incendie au point 9.2.1, non-adhésion de la ville de l'Île-Cadieux, au schéma de couverture de risque en sécurité incendie avec le président du comité, M. Yvan Cardinal.
Donc, M. le préfet, c'est le dépôt de la résolution de la ville Île-Cadieux de ne pas adhérer au schéma de couverture de risque.
Donc, M. Martel, vous êtes toujours en accord là, pour l'adoption du schéma avec le retrait de votre municipalité?
Oui, sans problème.
Parfait. Au point 9.2.2, la transmission du projet.
Monsieur Préfet, je vais poser une question.
Oui, Monsieur Pilon.
Si une ville se retire du schéma, qui est correct, là, Est-ce que la ville qui est censée la couvrir va être protégée? J'aimerais ça que M. Baudouin fasse la recherche, là, parce que si la ville de Bourail-de-Rion n'est pas protégée, parce que là, l'avantage du schéma, c'était d'éviter les poursuites. Donc, étant donné que c'est Bourail-de-Rion, à moins qu'il y ait des changements, c'est Bourail-de-Rion qui doit répondre aux incendies ou aux appels de l'île Cadieux. Si l'île Cadieux se retire du schéma, est-ce que c'est l'île Cadieux qui va, s'il y en avait, être poursuivie? Ou c'est ceux qui font les incendies-là qui vont être poursuivis? J'aimerais ça avoir une mise à jour là-dessus, s'il vous plaît.
Donc, juste pour bien comprendre votre question, M. Pilon, si une ville se retire du schéma de couverture de risque, est-ce que l'immunité de la municipalité qui intervient sur la ville qui a sorti demeure?
C'est en plein ça.
Donc, je crois que c'est dans la loi sur la sécurité et l'incendie, au courant des articles 47 et suivants, et je vais devoir faire une recherche chez vous.
Non, mais c'est correct. Je ne m'attends pas à avoir une réponse à soir fixe. Okay. Faites une recherche là-dessus.
OK.
Parce que moi, c'est certain qu'on ne réagira pas de la même façon si on n'est plus couvert. Puis si on a des menaces de poursuite parce qu'on n'a pas intervenu assez vite dans le temps, c'est une paire de manches. Merci beaucoup.
Merci, M. Pilon. Donc, on poursuivrait. Donc, est-ce qu'il y avait un commentaire? Donc, on poursuivrait avec le point 9.2.2, donc la transmission du projet de schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie au ministre de la Sécurité publique pour autorisation. Donc, M. Cardinal, président du comité.
Oui, tel que vous venez de le mentionner, c'est la résolution qui est proposée ce soir aux 22 municipalités. Corriger le texte, ce n'est pas 23, c'est 22.
Merci. Donc, on aurait besoin d'un proposeur secondaire à ce moment-là. Monsieur Cardinal ainsi que Monsieur Raymond Larouche.
J'ai une question, Monsieur le Préfet, par rapport à ça. C'est quoi l'avantage de l'île Cadieux de se retirer du schéma?
Pardon, Mme Brosseau, parce que j'ai un Siri qui s'est lancé en même temps, je ne sais pas pourquoi.
J'ai une question par rapport à dans le fond, à M. Martel, pour l'île Cadieux. Pourquoi se retirer? J'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie le retrait d'une municipalité au schéma, au service des incendies?
C'est à M. Martel d'y répondre.
Oui.
Bon, je veux pas faire un débat personnel, mais comme le schéma nous oblige et nous met dans une situation monopolistique, selon nous, le coût est abusif, je peux pas appuyer un schéma et ensuite me critiquer que ça me cause un tort. Alors, c'est simplement une simple logique.
OK, merci.
Donc, merci Mme Rousseau, merci M. Martel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous avions proposé un secondaire. Parfait. Donc, on arrive au point, en cours municipal, au point 10.1. Donc, cours municipal régional, revenu du bureau des infractions, avec le président du comité de la cour municipale régionale, M. Daniel Beaupré.
Bon, ça sera pas vrai, ok, c'est ça, c'est juste que le comité proposait de mettre 100 000 $ dans le fonds des politiques pour aider, justement, pour aider la MRC à avoir 4 fois le montant pour les subventions. Je ne sais pas si vous êtes tout à l'heure, on a une proposition là-dessus. Vous êtes en accord.
J'ai une petite question, M. le Préfet, pour M. Beaupré.
Oui, madame.
Tantôt, vous avez mentionné, on va garder 100 000 pour aller chercher des subventions, puis le reste, on va l'envoyer aux municipalités. Oui. C'est combien le reste?
Ben, ça va dépendre de comment est-ce qu'on va, je pourrais vous donner des chiffres.
C'est évalué à peu près aux alentours de 125 000, mais on est en attente que l'auditrice finisse ses chiffres. Et également, il y a encore des constats d'infraction qui arrivent. Dans le passé, si vous me permettez, monsieur Beaupré, monsieur le préfet, dans le passé, c'était 100% des sommes qu'on mettait dans notre fonds des politiques parce que ça nous permettait de faire un effet de levier. Par exemple, lorsqu'on va chercher de l'argent au niveau du FAR ou au niveau gouvernemental, souvent il y a une contribution du milieu de 20%, 30% ou 40%.
et on prenait ça dans le fonds des politiques. L'an passé, comme le fonds des politiques avait atteint un bon niveau, on avait décidé d'envoyer à 100% le retour des BIA vers les municipalités locales. On vous avait fait un retour de 349 000 $. Cette année, ce qui est proposé, c'est que l'argent sort de plus en plus de nos fonds politiques. Entre autres, on a supporté beaucoup de choses dans le fonds COVID et autres. Et également, on applique de plus en plus dans les fonds FRR. Donc, ça ferait du bien dans le fond des politiques de recevoir un 100 000 $. Comme l'expliquait M. Beaupré, chaque somme d'argent qu'on utilise à l'intérieur du fonds politique a un effet de levier pour aller chercher d'autres subventions gouvernementales.
Merci pour l'information. Merci.
D'accord. Merci.
Madame Deschaines a une question, M. le Président.
Oui, Madame Deschaines.
Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que, puisqu'on semble avoir pris des décisions sur une base annuelle en fonction de l'évolution de ce fonds-là, est-ce que je comprends donc que c'est une décision qu'on prend pour cette année uniquement et ce n'est pas une résolution là, qu'on garde à l'infini?
Tout à fait. C'est pour cette année. Si on n'en a pas besoin l'an prochain, on n'en aura pas besoin, tout simplement.
La question est, en avez-vous plus besoin que nous?
Ben écoutez, c'est toujours une bonne question. Est-ce qu'on en a besoin de plus que vous? La réponse, par respect pour les municipalités locales, c'est toujours non. Sauf que, est-ce que ces fonds-là nous amènent énormément de fonds en développement social, au niveau des infras, etc.? La réponse est oui, parce que dans le fond, par une mise de fonds de 20 %, on va chercher quatre fois plus d'argent.
Parfait.
Oui. Ça me puis dans le fond, ça retourne aux municipalités. Par exemple, le 300 quelques mille qu'on va aller chercher au niveau du phare et l'argent qu'on va aller chercher, par exemple, le 2,5 millions qu'on va chercher au gouvernement, il faut mettre un 500 000. Et ce 500 000-là vient du fonds des politiques.
Ça peut provenir de là.
Voilà. Ça fait que c'est vraiment gagnant-gagnant. Là. Puis comme je vous dis, c'est un fonds qui vous appartient. Et d'ailleurs, que se doit d'inscrire probablement les auditrices dans votre avoir, parce que l'avoir de la MRC vous appartient.
Parfait. Merci.
Monsieur Poirier?
Oui, moi je trouve que c'est un excellent placement régional et avec le rendement que ça donne, mon analyse fait en sorte que j'en ferai la proposition.
Peut-être juste une question, peut-être un commentaire plus qu'une question. Peut-être les prochaines fois, ce serait peut-être le fun d'en discuter avant que d'arriver sur un fait comme ça. Ça aurait peut-être été plus productif pour tout le monde de pouvoir voir exactement les
bienfaits. Effectivement, c'est un point qu'on aurait dû regarder directement à huis clos. Et tout à fait, vous avez tout à fait raison. J'en prends bonne note, ça m'a échappé. Voilà.
S'il n'y a pas d'objection, moi, j'appuierai la proposition de M. Poirier.
Merci, Mme Deschaines. Ça va pour tout le monde. Alors, ce qui nous amène au point, au cours d'eau, au point 11.1.1, service professionnel d'ingénierie pour poursuivre les démarches des travaux d'aménagement sur le tributaire naturel du cours d'eau, paiement à Vaudreuil-Dorion. Ça prend un octroi de contrat, M. Bellemare, pour des précisions, s'il vous plaît.
Oui, ben, tel que mentionné par le président de la table de l'eau, ça a été étudié, c'est recommandé. C'est un dossier qui est en traitement depuis un an au ministère de l'Environnement. Le fait de donner tout de suite le mandat va nous permettre de répondre à des questions qui viennent de nous arriver et réussir à obtenir une autorisation le plus rapidement possible.
Parfait. On aurait donc besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur Berriot le propose. Monsieur Grunewald appuie. Merci. Ensuite, en matière résiduelle au point 11.2.1, demande au ministre de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques d'ajouter un amendement au projet de loi 65 pour porter à 7 ans le délai pour l'adoption d'un plan de gestion des matières résiduelles révisé. Monsieur Malot, s'il vous plaît.
Oui, ben effectivement, la FQM nous demandait l'appui pour modifier la loi, c'est-à-dire que à travers du même 7 ans qu'on a pour finaliser une révision, au bout de 5 ans, il demandait déjà de déposer un projet. Donc là, ce qu'il demandait, c'est de simplement faire une résolution comme quoi on est en démarche toujours dans le même 7 ans, mais on ne sera pas obligé d'adopter un projet au bout de 5. Donc, si vous avez vu la lettre que suivi, le ministère a analysé la demande de la FQM et est d'accord pour que dans un prochain changement législatif, qui apporte cette modification à la loi. Donc, on appuierait quand même la FQM là, pour simplement faire savoir que c'est la province au complet qui appuie cette demande-là. Voilà.
Merci, M. Malo. Au point suivant, qui est le 11.2.2, mémoire de la Couronne Sud portant sur l'élimination des matières résiduelles, c'est donc une demande d'appui, M. Malo.
Oui, ben le mois dernier, vous avez adopté sur le même sujet des commentaires à la CMM. Là, c'est la Couronne Sud, sur laquelle aussi, mémoire sur laquelle on a travaillé, qui a été déposée à la table de la Couronne cette semaine. Donc, on vous propose de l'appuyer. Ils ont pris aussi tous nos éléments, ils en ont rajouté. Entre autres, là, pour je ne dirais pas au complet, mais un élément qui est assez difficile, là, qui fait des années qu'on débat, c'est-à-dire comment on va gérer les industries, commerces, institutions, parce que le ministère nous demande, de gérer ça, mais on n'a aucun pouvoir. Donc, là, on demande de reprendre la discussion pendant justement la révision des plans régionaux des matières résiduelles. Donc, par exemple, il y a d'autres choses là, qui sont intégrées, mais c'est un des gros points là, que nous aussi, on avait soumis. Donc, de mieux gérer, de mieux avoir une meilleure interface pour gérer la quantité. Parce que je vous rappelle que c'est exactement le même nombre de matières résiduelles, la population, les résidentielles que les ICI, alors qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, c'est un des éléments importants dans les mémoires, le nombre comme celui de la Couronne Sud.
Il y a des questions pour M. Malo? S'il n'y a pas de questions, il nous faudrait donc un proposeur secondaire. M. Philippe Lapalme et M. Régent Fournier. Merci. Au point des écocentres en 11.4.1, appel d'offres publiques, achat d'une pelle hydraulique pour la compaction à l'écocentre à Vaudreuil-Dorion. Toujours avec M. Malo.
Oui, ben on vous demande de nous autoriser à aller en appel d'offres l'achat d'une pelle mécanique pour la compaction des matières à l'écocentre de Vaudreuil-Dorion. Donc, autorisation d'un appel d'offres. On rappelle que le projet pilote avait donné d'excellents résultats. On sauve jusqu'à 100 000 $ par année, là, parce qu'évidemment, il y a moins de transport de matière, moins de conteneurs qui roulent, mais c'est quand même des quantités intéressantes et très importantes. Donc, on propose, là, on est en location, je vous rappelle, donc on propose d'aller en appel d'offres pour l'achat d'une pelle.
Je peux poser une question, monsieur le préfet?
Oui, monsieur Larouche, et monsieur Séguin en aura une également par la suite.
Est-ce qu'on parlait avec les usagers? Est-ce que j'ai acheté une neuve parce qu'elle ne travaillerait pas fort, là? Ça va durer des années, une pelle, là.
Est-ce que je peux répondre, monsieur le préfet?
Oui, monsieur Pilon.
On a regardé la possibilité d'usager. La différence, c'est justement... le problème avec l'usager, c'est la garantie, vous savez qu'il y en a plus.
Ouais.
Mais deuxièmement, on va regarder sur la soumission, on peut aller, je pense que... Je vais en parler à monsieur Grenoir, là. Mais on pourrait aller avec une paye qui a, disons, 500 heures ou moins, là, OK? Mais étant donné que les gens qui sont là ne seront pas ni des mécaniciens, ni des gens d'entretien, je pense qu'on est mieux d'y aller avec une neuve, avoir la paix pendant bien, bien longtemps, et s'assurer surtout qu'en achetant une neuve, c'est un petit peu comme une auto, là, s'assurer que la garantie d'entretien et de réparation va être va être capable de suivre le plus longtemps possible. C'est pour ça que je pense qu'on va recommander une neuve, mais on pourrait accepter aussi une neuve qui n'a pas plus qu'un certain nombre d'heures.
Monsieur Grenoir, vous vouliez ajouter?
Oui, je voulais rajouter. Je suis d'accord avec M. Pilon, considérant que dans les réseaux d'éco-centres, on n'a pas des ateliers pour faire de la maintenance et puis toutes ces choses-là. Moi aussi, puis garde, mon garçon, il a 11 pelles dans le moment, là, puis quand c'est pas neuf, c'est pas neuf. Je vais vous assurer que je suis d'accord avec M. Pilon. Puis pour les gens qui vont écouter, la mission, c'est de compacter des conteneurs et non de réparer de la machinerie lourde.
Parfait. Monsieur Séguin, vous aviez une question.
Oui, on avait passé une résolution qui nous donnait qu'on louait une pelle jusqu'en février 2022. À moins que j'ai mal saisi ce que dit la résolution. Est-ce que la nouvelle pelle va remplacer ça? Parce qu'on avait il y avait une proposition là, le 21 février. La proposition 11.4.3. Donc, je veux juste savoir, parce que là, s'il y a un contrat qui est donné, est-ce qu'on a une pénalité ou est-ce que ça va remplacer le contrat ou est-ce qu'il y avait une proposition sur la table là-dessus?
Est-ce que je peux répondre, M. le préfet?
Oui, M. Pilon.
Après avoir parlé aux dames qui s'occupent de ça à la MRC, bon, on est conscient que monter le devis, on va le faire avec l'aide de la ville de Bourg-de-Rion, le M. Montpellier, l'envoyer, donner le délai pour revenir. Si l'appel n'est pas là, ça se peut qu'il y ait des délais aussi de livraison. C'est certain que là, il faut partir au mois d'avril parce que c'est pour ça que la location continue. Mais d'après moi, si tout va bien, cet été, dans ces eaux-là, on devrait être capable d'avoir la pelle neuve. Et de mémoire, il me semble que c'est la pelle usagée est sur est louée au mois, là, même à la semaine, quelque chose dans ce style-là. Mais c'est pour attendre. La pelle qu'on loue, c'est la même que l'année passée. C'est simplement en attente de recevoir la machinerie neuve, simplement.
Parfait.
Donc, on n'aura pas deux pelles en même temps, puis on aura juste un montant d'argent qui va être déboursé.
En principe, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Mais ça, c'est les gens de la MRC qui gèrent ça. Donc, je vois, monsieur le président du comité peut vérifier ça avec les dames, là, mais je pense que c'était fait expressément pour ça.
Oui, je pense que c'est une location mensuelle et pas contractuelle liée à une date. Mais ça reste à vérifier quand même. La question est bonne, puis on va vérifier auprès des gens de la MRC.
Merci.
Éventuellement, ben à ce moment-là, ce qui serait préférable, c'est si on est lié avec une date, on s'arrangera pour faire l'acquisition et que ça se chevauche pas.
C'est bon. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on aurait besoin d'un proposeur secondaire.
Oui.
Guy Pilon, M. Hans Grunewald. Merci. En 11.4.2, le financement de l'achat d'une pelle hydraulique pour la compaction à l'éco-centre de Vaudreuil-Dorion, M. Beaudoin.
Oui, c'est sûr que pour la financer, il y a soit un règlement d'emprunt ou bien on emprunte sur notre fonds de roulement. Donc, ce serait proposé qu'on fasse un emprunt sur le fonds de roulement.
Si on peut ne pas parler de pépines pendant une demi-heure, j'approuve avec plaisir.
Et je seconde.
Donc, madame.
Est-ce qu'on pourrait revenir sur la description?
Non, pas nécessaire, M. Beaudoin.
Moi, je vais apporter une correction. On parle d'une pelle hydraulique. Avant que M. Pilon aussi me dise que. Parce qu'on a tous l'habitude de dire pelle mécanique, mais en fait, c'est vrai, c'est une pelle hydraulique.
Est-ce qu'il y a un expert là-dessus?
Moi, la même personne qui chauffe.
Est-ce que ça va être une pelle qui va être à la vapeur?
Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est une combien de tonnes?
C'est une entre 13 et 14 tonnes.
Quand même une grosse.
Des tonnes américaines ou des tonnes métriques?
C'est plus gros qu'un petit tout bateau que vous voyez, mais dans la construction, en bas de 21 tonnes, 22 tonnes, ouais. c'est dans les petites moyennes, là.
Mais pour m'avoir conduit une 8, je trouvais que la 8 était pas si pire que ça.
Moi, peut-être, mais c'est parce que ça prend absolument une pelle qui est capable d'aller dans le conteneur. Oh,
donc, Mme Desjardins, elle a proposé. Puis...
C'est donc la portée. Mais là, ce que j'entends, c'est que Mme Lemieux est en train de nous tirer vers nous ramener le débat. Donc, voilà.
Et voilà.
Donc, ça va pour tout le monde. On avait proposé un secondaire en la personne de Mme Desjardins et M. Grimaldo. Merci à vous deux. Donc, maintenant, aux avis de conformité, c'est-à-dire les points 12.1.1.1, 12.1.1.2, 12.1.1.3. Donc, pour le premier, comme à l'habitude, si vous le permettez, on prendrait les mêmes proposeurs secondaires pour ces points-là. Donc, pour la municipalité de Pointe-Fortune, règlement 274-6, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 274 afin d'assurer la concordance au règlement 16720 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, règlement 276-13, modifiant le règlement de zonage 276 afin d'assurer la concordance au règlement 16720 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En 12.1.1.2 pour la ville de Vaudreuil-Dorion, règlement 1273-12, modifiant le règlement de lotissement 1273 afin d'établir pour l'application de la cession pour fin de parc la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'une opération cadastrale. Le règlement 1275-292, modifiant le règlement 1275 afin d'abroger la marge de recul avant maximale, et règlement 1275-294, modifiant le règlement de zonage 1275, afin d'établir pour l'application de la cession pour fin de parc la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'un projet de redéveloppement comportant 4 logements et plus. En 12.1.1.3, demande d'avis de la Commission de protection du territoire agricole, aliénation et lotissement d'une partie du lot 2,045,759 à des fins résidentielles. Et la célèbre question, Monsieur Malot, est-ce que tout est conforme?
Le tout étant conforme, on vous propose de donner les avis de conformité.
Nous aurions donc besoin d'un proposeur secondaire.
François Bélanger.
Donc, M. Bélanger propose, M. Chiasson seconde. Merci. En schéma d'aménagement révisé au point 12.2.1, dépôt de la version finale du projet de règlement du schéma d'aménagement et de développement de troisième génération avant son adoption pour les étapes à venir avec M. Malot.
Oui, on avait envoyé la copie du schéma à toutes les municipalités, mais au ministère, au gouvernement, tous les ministères et à la communauté métropolitaine de Montréal. On avait laissé jusqu'au 19 mars. Cependant, le ministère des Affaires municipales qui gère l'ensemble des avis de tous les ministères, ils sont pas arrivés à respecter ce délai. Ils vont prendre jusqu'à la fin du mois de mars, donc... On doit déplacer les comités, la commission d'aménagement, la table régionale d'aménagement et le comité consultatif agricole pour analyser le tout vers la mi-avril. Et ça va bon train, je tiens à le dire, là, c'est qu'ils n'ont pas arrivé, ils sont pas arrivés d'un délai, mais il y a des discussions là qui sont à toutes les semaines, sinon dans certains cas tous les jours avec les ministères, ça avance bien, mais c'est pas terminé. Puis il reste aussi le dossier sur les mines là qui sont encore en discussion et on n'aura pas de réponse, si on le sait, pas avant au début du mois d'avril. Donc, les prochaines étapes, c'est ça, c'est de terminer, de recevoir l'ensemble des opinions des ministères, faire les ajustements si nécessaire et siéger avec les deux tables pour le finir et le déposer. Ça devrait donc se terminer pour le mois de mai. Donc, dépôt pour le mois de mai, la version finale pour adoption.
Merci, M. Malot. Au point 12.3, concours de projet pour l'aménagement culturel et paysager du parc et du canal de Soulanges, le choix des finalistes de l'étape 1. M. Malot.
Oui, bientôt dans le cadre du concours, nous avons trois finalistes. Tiens à dire que ça va être... Malheureusement, je peux pas vous présenter les sketchs parce que les trois films sont en compétition et à ce moment-là, les documents sont pas publics. Donc, par contre, je peux vous dire que c'est vraiment un travail. Donc, la première phase, c'était un dépôt de bénévoles. On payait pas pour ça. Et on a d'excellentes firmes. Là, que, donc, vous voyez les noms. C'est des grands bureaux. Il y en a même qui ont gagné des concours au niveau de l'architecture du paysage. Donc, on est très content de la qualité des firmes qui ont déposé. Ils ont tous d'importants CV. Donc, on est très content. Là, ce qui vous est proposé, tout dans le cadre avec l'entente qu'on a avec le ministère de la Culture, c'est de poursuivre. Donc, là, on va payer les trois firmes qui dégagent les idées, donc qui développent les idées qu'ils ont déjà développées en première phase. Donc, en deuxième phase, ils vont beaucoup plus loin. Et donc, j'ai bien hâte de vous le présenter parce que c'est vraiment fort pertinent. Je vous rappelle que le contrôle, c'est pour une émulation d'idées pour développer l'image du canal. Donc, puis après, ben pour que ça se répercute dans la MRC, c'est vraiment intéressant. Donc, le but, on vous demande les budgets. Je vous rappelle, ça fait partie de l'entente avec le ministère de la Culture. Donc, 60 000 $, 20 000 $ par concurrent. Et après, ben, on va en retenir un pour faire un plan d'aménagement en tant que tel.
Parfait. Donc, c'était pour votre autorisation. On aura donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur.
Je propose.
Madame Brosseau et je vois Madame Godin-Dosti.
Oui.
Merci. Donc, maintenant, info-territoire au point 12.4.1. Projet campagne de sensibilisation à la sécurité routière aux abords des écoles primaires. Donc, pour un partage de données. Monsieur Belmar.
Donc, on a reçu une demande de la commission scolaire à l'effet de partager certaines orthophotos pour certaines adresses, certaines écoles pour leur permettre de mieux sécuriser autour des écoles dans un projet. Ils veulent savoir où sont les intersections donc et de géomatiser les lieux où les écoliers débarquent des autobus ou fréquentent le plus le pourtour des écoles. Donc, on vous fait la proposition de transmettre ces orthophotos-là. Donc, vous avez les adresses des écoles dans la lettre du Centre de service scolaire des Trois-Lacs.
Oui, et le comité recommande de partager ces photos-là puisque ça nous a été présenté hier et c'était vraiment le but d'assurer la sécurité. Il n'y en aura jamais assez, je pense. Donc, tout ce qu'on peut faire pour les aider, on devrait être là. Donc, moi, je propose de faire, de leur permettre de partager nos orthophotos et nos renseignements.
Et j'appuie. Donc, M. Berriot propose, M. Lapalme, seconde. Merci. Au point suivant, appel d'offres sur invitation pour une campagne de caractérisation comprenant les jaugeages, les relevés de niveau d'eau ponctuels et la bathymétrie de certains tronçons de six rivières du projet de cartographie des zones inondables. Monsieur Belmar.
Oui, donc il s'agit de faire ces travaux sur la rivière de l'Île Rouge, la rivière à la Raquette, la rivière du Nord, la rivière de l'Ouest, la rivière Dalesville, donc en partie dans la MRC d'Argenteuil et en partie dans Vaudreuil-Soulanges. Le tout étant payé par le projet de cartographie des zones inondables à 100% par le MAMACH. Il s'agit d'un appel d'offres, de lancer un appel d'offres sur invitation pour cette campagne de caractérisation.
Donc, nous aurions besoin d'un proposeur secondaire.
Je propose, Monsieur le Préfet.
Merci, Monsieur Gwenwald. Quelqu'un appuie? Monsieur Yvan Cardinal, merci. En développement au point 13.1.1, avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, ça serait donc pour entériner la signature. C'est une excellente nouvelle, c'est une aide additionnelle de 2 millions. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un j'aurais besoin d'un proposeur, en fait.
Propose.
Donc, M. Grimaldo, Mme Julie Lemieux, merci. Au point 15, interface CMM, M. Pilon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parfait.
Non, il n'y a pas eu de réunion depuis la dernière fois qu'on s'est vu, en tout cas.
Parfait, merci. Au point 16, la table des préfets élus de la Couronne-Sud, donc au point 16.1, rencontre du président de la table avec les élus de la communauté métropolitaine de Montréal en lien avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, c'est un rappel que la rencontre a lieu demain, 25 mars à 15h30 par vidéoconférence. Vous avez reçu les liens. Toutefois, dans le doute, là, si jamais vous aviez des questions, vous pourriez nous les transmettre. On vous acheminera l'information.
Est-ce que je peux dire un petit mot, M. le Préfet?
Oui, M. Pilon.
Bon, je vous avais dit, je pense, les maires de la CMM là, qui ont dû prendre en compte pour voir, pour s'assurer que ce qui va être présenté au PMAD, là, soit un accord. Donc, c'est suite à ça. Le président de la table fait le tour de toutes les MRC, puis on est la dernière, je pense, M. le Préfet, qui va être visité. Donc, ça va être le temps qu'on apporte nos points. Nos points ont déjà été apportés de toute façon par M. Malot. par les différentes villes, mais ça va être vraiment comme un dernier, ben pas un dernier, mais ouais, presque un dernier rassemblement de tout ce qu'on veut dire, puis s'assurer que le rapport va partir de la Couronne Sud pour le mémoire à la CMM, pour le PMAD, que nos points soient apportés aussi. Donc, c'est important, je pense, pour peut-être pas tous les maires, mais la majorité des maires de la CMM, là, d'être là pour avoir une mise au point là-dessus. Puis, si vous avez des questions, c'est ils vont pouvoir être transmis après. Merci.
Merci. Donc, on n'avait pas de points pour la table concertation régionale Montérégie, pas de points culture. Affaires nouvelles, est-ce que vous avez des points ou rapport des élus?
J'ai peut-être juste une question à M.
Oui,
Pinot.
Madame Rosso.
Exo sont venus nous rencontrer, les municipalités de Soulanges, pour avoir notre point de vue sur le transport collectif. Bon. Il y avait quelques municipalités qui étaient présentes, dont moi, j'étais présente. Suite à la rencontre, quelques semaines après, ils m'ont envoyé un courriel comme quoi qu'ils ne pouvaient pas nous servir parce qu'on ne faisait pas partie des municipalités CMM. Mais je suis surprise qu'ils sont venus nous sonder, qu'ils ont pris du temps, qu'ils nous ont fait durer au moins une heure trente, deux heures la rencontre pour, ils savaient très bien qu'on ne faisait pas partie de la CMM. Pourquoi ils sont venus nous consulter? J'ai des doutes. Je voudrais savoir, M. Pilon, votre opinion par rapport à ça.
Ben, j'ai aucune idée parce que je ne siège pas sur l'exo.
Non, puis je suis un peu étonné. D'ailleurs, là, vous dites les municipalités de Soulanges. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir été consulté, d'ailleurs, par exo.
Oui, vous aviez été invité. Il y avait plusieurs municipalités qui avaient été invitées. Puis, il y avait Coteau du Lac, les Coteaux qui étaient présents.
C'est parce que ce qui arrive avec Exo, là aussi, le gros discussion qu'on a présentement depuis des années, là, c'est les villes ACMM et CMM et ACMM qui viennent dans CMM et XYZ, OK? Donc, il y a même des discussions là, pour agrandir un certain périmètre puis XYZ, OK? Donc, peut-être qu'ils vous ont consulté pour savoir quelles étaient vos attirances, si on veut, mais on voit très bien que vous trouvez Coteau du Lac, Saint-Zotique, puis des Coteaux, vous allez avec Valifie. Peut-être qu'ils sont venus juste chercher des renseignements. Mais Exo se concentre pas uniquement, mais pratiquement tout dans la CMM de toute façon. Là.
Oui.
Les trains partent de plus loin, on s'entend. Là. Mais j'ai aucune idée, madame. Si vous voulez que j'aille plus loin, je vais parler à notre représentant Exo. Dans notre coin, ça serait M. Tremblay, qui est maire de Beauharnois. Et je peux aller vous chercher l'information.
Ben, c'est correct, mais il n'y avait pas personne de la MRC. Dans le fond, je pense que c'est M. Marquis qui avait convoqué une rencontre. Il n'y avait pas personne de la MRC. Puis on sait aussi que la MRC fait un sondage auprès des municipalités avec Vecteur 5.
Oui. Mais c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les études OD, origine-destination, il y a beaucoup de monde qui viennent, qui sont dans la dame et qui viennent de d'autres municipalités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est encore considéré dans zone rouge, là, parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de trajets entre Montréal, l'île de Montréal, puis la région de Beauharnois. Mais j'ai l'impression que si on est allé sonder, vous deviez représenter, d'après moi, une proportion des nombres d'usagers qui utilisent le transport. Je pense que c'est ça, mais laissez-moi aller vérifier, Mme Brosseau.
Parfait, merci.
Ben, merci. D'ailleurs, je vais faire les vérifications de mon côté parce que j'ai pas vu passer cette invitation-là.
Non, mais allez-y d'abord, Monsieur le Préfet, puis moi, je me mêle pas de ça, il n'y a aucun problème. Allez-y chercher l'explication, aucun problème. Mais c'est Monsieur Tremblay qui est notre représentant pour notre
situation. Oui, tout à fait.
OK.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres points au rapport des élus? Il ne semble pas y en avoir. Donc, nous voici à la période des questions allouées aux citoyens. Madame Laplante, est-ce que nous avons eu des questions?
Non, aucune question.
Parfait. Alors, on rappelle quand même aux citoyens que s'ils ont des questions, ils peuvent les adresser à Madame Linda Laplante à l'adresse suivante, donc au llaplante@mrcvs.ca. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, quelqu'un propose la clôture de l'Assemblée.
Je le propose.
Monsieur Daniel Beaupré, Monsieur Grimaldo, vous secondez, alors? Parfait. Bon. Donc, mille merci. Soyez tous prudents. On se revoit bientôt.